une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI 016 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncé, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, prof d'éco en prépa à Rouen, et tous les lundis, je décortique avec vous un sujet d'économie. Aujourd'hui, l'épisode de Splash a été enregistré en public dans le cadre du festival Éco-Côtier à la Cité de l'économie à Paris, premier musée européen dédié à l'économie. J'ai invité Mathieu Perrona, directeur exécutif de l'Observatoire du bien-être du CEPREMAP, pour parler de transition écologique et surtout de transition écologique heureuse. On a discuté de voitures électriques, de déceptions et de révolutions. Vous allez voir, c'est passionnant et ça donne de l'enthousiasme. Aujourd'hui donc, c'est Mathieu Perrona que l'on reçoit. Mathieu qui est donc directeur exécutif de l'Observatoire du bien-être et avec qui on va parler de transition écologique et de ses impacts positifs, négatifs, on va voir ça ensemble, sur le bien-être justement des populations concernées, d'ailleurs de pas toutes les populations en même temps. Mathieu, voilà, la première question que justement j'allais te poser là-dessus, c'est quand on parle de bien-être subjectif, puisque c'est là-dessus que la dernière note de l'Observatoire du bien-être qu'on mettra en lien bibliographique pour cet épisode-là se focalise. De quoi parle-t-on exactement ? Déjà, quelles sont les enquêtes dont on parle quand on parle de l'impact d'une éventuelle, déjà du réchauffement climatique et puis d'une éventuelle transition écologique sur le bien-être subjectif ? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça ?
L'idée fondamentale de l'économie du bien-être subjectif, c'est de ne pas essayer d'imposer une définition du bien-être, mais de partir des représentations que les personnes ont déjà. C'est-à-dire que très concrètement, on pose des questions du type, des questions qui viennent en fait de la psychologie et de la psychométrie, sur une échelle de 0 à 10, à quel point avez-vous été heureux hier ? À quel point avez-vous le sentiment que ce que vous faites dans la vie a du sens ? À quel point êtes-vous satisfait de la vie que vous menez actuellement ? Il y a tout un corpus profond de recherche qui montre que les réponses à ces questions sont comparables dans le temps, suffisamment robustes, pour qu'on puisse les utiliser comme une approximation de ce qu'on appelle communément le bien-être. Et l'approximation sera d'autant meilleure, évidemment, que l'on couvre une vaste gamme de métriques. Par exemple, nous, à l'Observatoire du bien-être, on finance auprès de l'INSEE une plateforme de 20 questions qui sont posées trimestriellement aux personnes qui répondent à l'enquête de conjoncture auprès des ménages. À la fin de l'enquête, l'INSEE leur demande « Est-ce que vous accepteriez de répondre à 20 questions supplémentaires sur votre bien-être ?»
À partir de ça, comment est-ce qu'on trouve des équivalents monétaires ? Parce que dans les papiers que tu cites dans la note en question, il y a fréquemment l'idée selon laquelle telle mesure de politique publique ou encore tel constat simplement qui tient à l'évolution du climat peut coûter ou améliorer le bien-être de telle sorte que ce soit à peu près équivalent à tant de mois de revenus ou à un équivalent même qui se compte en dollars. Comment est-ce qu'on fait ça ?
On a vu, et ce n'est pas spécialement une surprise, que le revenu compte pas mal dans le bien-être, et plus précisément dans une métrique particulière qui est la satisfaction dans la vie. Du coup, on peut estimer, avec les outils habituels de l'économétrie, une relation qui est en moyenne sur une population dans un pays, tant d'argent produit 0,1 point de satisfaction en plus. Et c'est à partir de ça qu'on construit des équivalents monétaires. Bien évidemment, on est très conscient que ce n'est pas du tout la même chose sur la position où on est dans l'échelle des revenus et que 1 000 euros de plus, ça produira une satisfaction beaucoup plus élevée chez quelqu'un qui part d'un revenu très faible que chez quelqu'un qui a déjà un revenu très élevé. Et ces conséquences distributionnelles sont évidemment fondamentales au-delà de ces équivalents monétaires qu'on fait pour arriver à se ramener à des choses qui sont familières, mais qui franchement sont pas l'élément avec lequel on a le plus envie de travailler en économie du bien-être, précisément parce qu'on voudrait que le bien-être soit une mesure en soi, pas un moyen direct de revenir vers les équivalents monétaires.
Alors, est-ce que ça veut dire, pour rebondir immédiatement sur ce que tu disais, puis j'aurai une question ensuite sur les effets distributionnels, que la baisse de la consommation, par exemple, si on estime que c'est une des mesures nécessaires pour avoir un modèle écologiquement plus soutenable de croissance, la baisse de la consommation nous rendra plus heureux si jamais la sobriété qui va avec se traduit par finalement une consommation plus responsable et un peu plus de bonheur qui ne se relie pas directement au revenu.
Alors ça, c'est vraiment un fondement de l'économie du bien-être, ce qu'on a appelé aussi le paradoxe d'Easterlin, c'est que on voit, et quelque part, c'est quelque chose qui devrait être absolument évident et familier à toutes les personnes qui regardent, qui connaissent l'économie, c'est qu'on a une plus on est, on monte dans l'échelle de revenus, moins une augmentation de revenus nous apporte de la satisfaction supplémentaire. Ça fait une sorte de courbe. Au début, elle est très verticale, c'est-à-dire que un peu plus d'argent augmente beaucoup la satisfaction moyenne. Ben, c'est pas très étonnant quand on passe de 500 à 1000 euros par mois, on sort d'un niveau de détresse matérielle à un niveau où on commence à sortir la tête de l'eau. Quand on passe de 8000 à 9000 euros par mois, qu'est-ce qu'on peut à faire vraiment en plus avec cet argent-là? Si on retraduit ça en termes de consommation, ça veut dire que la réduction de la consommation va avoir des effets qui vont être extrêmement différents selon l'endroit où on est. Et globalement, en France, des travaux récents de l'INSEE montrent que cet aplatissement de la courbe, il est à peu près vers le dernier quintile de revenus. C'est-à-dire que les 20% les plus riches de la population ont un surplus de consommation qui leur apporte pas grand-chose en termes de satisfaction. Or, en termes de transition écologique, on sait que les émissions de CO2 sont fortement liées avec le revenu par le biais de la consommation. Et donc, il y a une marge extensive de réduction de la consommation en haut de la distribution de revenus qui est peut-être importante. Ça ne serait pas qu'on augmente le bien-être juste en réduisant la consommation. On reviendra peut-être sur comment on peut organiser ça. Mais c'est qu'il y a une partie de la population qui pourrait réduire sa consommation sans perte significative de bien-être. Ça passe par aussi quand même des modifications assez fondamentales de la vision qu'on a. Parce que ce qu'il y a derrière ce paradoxe, c'est qu'une fois que nos besoins fondamentaux sont couverts, la satisfaction qu'on tire d'un revenu supplémentaire, c'est pas ce qu'on consomme en soi, ça devient une espèce de jeu positionnel. C'est je suis devant, je suis plus que les autres. La richesse n'est plus un moyen d'acquérir des biens, ça devient comme un compteur dans un jeu. Et ce qui nous apporte de la satisfaction, c'est d'être vers la première place. Ça, c'est quelque chose qui est profond, qui se retrouve dans beaucoup de sociétés, mais qui n'est pas forcément un élément nécessaire de notre rapport à la consommation et de notre rapport aux autres. Et de fait, ce qu'on voit, c'est que les pays qui dominent les classements mondiaux en termes de satisfaction dans la vie sont des pays qui sont riches. On parle du Danemark, de la Finlande, de la Suède, mais aussi des pays qui sont très égalitaires et où cette course à l'échalote de avoir la plus grosse maison, la plus grosse voiture, le dernier téléphone, il est peut-être moins prégnant que dans d'autres pays pourtant plus riches en moyenne.
Ça veut dire que si je suis bien, il va falloir s'attaquer aux revenus des plus riches, ou au moins faire de la redistribution de manière à ce que les plus riches, c'est-à-dire les plus émetteurs par leur consommation privée de carbone pour l'instant, se serrent la ceinture. C'est effectivement vers ça qu'il faut regarder ?
Je pense que oui, il n'y a pas de chemin unique. Il y a beaucoup de chemins, il y a aussi beaucoup de leviers. Si on reprend en fait la décomposition de la satisfaction de vie en fonction des facteurs qu'on connaît, bon, le premier facteur, vraiment de très loin, c'est la santé mentale. C'est vraiment vers le négatif, en fait. Quand vous êtes dans une mauvaise santé mentale, et là, je ne parle pas juste de cas graves pathologiques. Au Royaume-Uni, c'est 20% de la population qui est dans un état de santé mentale, de stress, de burn-out, etc., qui fait que ça nuit très profondément à sa satisfaction de vie. Quand vous êtes dans cet état-là, vous pouvez être riche, vous pouvez avoir plein de trucs, vous êtes malheureux. Il n'y a vraiment rien à faire. Donc, il y a ce levier-là qui n'est pas neutre parce qu'il y a une part de la consommation qui est liée à la volonté d'essayer de se sortir de là alors qu'on est dans un environnement où l'accompagnement de cette détresse mentale n'est pas forcément très bien fait. Et du coup, des gens qui essayent de s'en sortir par la consommation et qui n'y arrivent pas. Ensuite, il y a le revenu. Ensuite, il y a tout ce qui est de l'ordre des relations sociales proches. Puis, il y a l'environnement et les relations sociales plus lointaines. Et tout ça fait tout un tas de leviers qu'on peut mobiliser au-delà du simple effet juste distributionnel en disant on va réduire la consommation des plus riches. Ceci dit, après, avec ma casquette d'économiste, il semble évident que le levier de la taxe carbone, qui est un outil qui fait de fait consensus, est quelque chose qui peut servir à ça, puisqu'on a vu que l'empreinte carbone était directement liée à la consommation. Là où il faut faire attention, et là où les gilets jaunes ont été une manifestation de ça, c'est qu'il y a tout un tas de gens qui vont être touchés par la taxe carbone, qui n'ont pas ou peu de marge de manœuvre en temps court. Et ça, c'est extrêmement important aussi, parce que pour l'instant, j'ai parlé beaucoup de niveaux. la satisfaction de vie comme liée à notre niveau de revenu. En fait, ce que met en évidence les recherches, c'est aussi que nous sommes très averses, ça nous inquiète énormément, l'insécurité par rapport à notre revenu, quel que soit le niveau de revenu qu'on a en fait. Et là aussi, on avait ça dans les gilets jaunes, c'est-à-dire des personnes qui avaient le sentiment d'être sur la corde raide en termes de revenus. Et dès qu'on va se mettre à toucher ce type de public-là, on va susciter des réactions très violentes, parce qu'en bien-être, on le voit très bien, dès que j'ai l'impression d'être juste en revenu, je le vis extrêmement mal. Et donc, c'est essayer de viser les gens qui ont ce sentiment d'aisance financière, qui l'ont matériellement et à qui on va pouvoir essayer de faire réduire leur consommation, soit par des outils classiques de la fiscalité, comme tu dis, l'impôt sur le revenu, quelque part, il a pour ça. Il y a aussi ce que proposent Thomas Piketty et Emmanuel Saez, un impôt en stock sur les fortunes, qui sont autant de leviers qu'on peut activer au service de la transition en prenant en compte les aspects distributionnels.
On a commencé à en parler. Est-ce que baisser la consommation, et donc notamment celle des plus riches, hein, on est d'accord là-dessus, tout en investissant davantage, puisqu'il va falloir aussi y consentir beaucoup d'investissements, notamment publics et sans doute privés, pour changer de modèle de production. Là aussi, quel genre de conséquences, y compris macroéconomiques, ça peut avoir à moyen terme?
Alors, la macroéconomie n'est pas mon cœur de métier. Donc, à très grosse masse, on peut imaginer qu'il y ait une substitution entre la demande de l'investissement public, dont on sait qu'il est absolument nécessaire pour ne serait-ce qu'entretenir la santé, le niveau d'éducation des populations aussi, et pour réaliser tous les investissements nécessaires à la transition écologique, rendre nos villes, nos infrastructures plus économes et aussi plus résilientes aux aléas climatiques, parce qu'on sait qu'on n'est pas sur une trajectoire à zéro, une trajectoire à plus 2, on va se prendre des vents violents à Paris. Paris n'est pas du tout équipé pour le genre de vent pour lesquels, par exemple, Marseille est conçu. Ça va être des investissements qui vont être extrêmement importants et extrêmement lourds. Et du coup, on sait qu'il va y avoir une augmentation nécessaire de l'investissement public. Et on peut imaginer qu'il y ait une compensation par une baisse de la consommation privée qui se fasse à niveau, à sentier de croissance constant. Quelque chose qui est important pour moi et dans le domaine du bien-être, c'est que la politique publique est très loin de se limiter au levier fiscal. Une des initiatives qui a le mieux marché en termes de bien-être, c'est une initiative qui est extrêmement légère, qui a été déployée au Royaume-Uni, qui consistait à réunir des volontaires pour une durée de 6 semaines, 1 à 2 fois par semaine, pour des ateliers extrêmement simples, où on leur posait fondamentalement la question « Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie ?» qui a l'air complètement évident, qui est une question qui passe assez systématiquement au second plan. Cette expérimentation a été évaluée par une équipe de recherche de la London School of Economics, qui ont mesuré que le bien-être subjectif de ces personnes-là avait très significativement augmenté sur le temps et puis même après cette démarche. Parce qu'ils avaient fait ce tri-là, qu'on ne fait pas assez, et qui leur avait fait reprioriser tout un tas de choses dans leur vie, dans leur manière de consommer, dans leur manière dans leur posture vis-à-vis de leur vie. Et ça, c'est très en lien avec toutes les recherches dont je parle dans le parcours de la littérature dont tu as parlé, où mettre plus de sens dans nos comportements quotidiens semble être un levier assez puissant de bien-être et de changement de notre mode de consommation.
Alors là, on rentre dans une question qui est vraiment dure, à mon avis. C'est comment est-ce qu'on fait pour changer, justement, de modèle de consommation à une échelle qui est très macro-sociale, à savoir, tu le disais toi-même, une partie de la consommation, bon, ça ne surprendra pas les auditeurs ou auditrices un peu plus sociologues qu'économistes, est liée à des questions de distinction. Et au fait que c'est encore à l'heure actuelle l'objectif d'une bonne partie de la population que d'avoir une maison plus grande et une voiture plus grosse et de pouvoir voyager loin, etc. etc. Comment est-ce qu'on fait, pour dire les choses un peu crûment et peut-être de manière provocatrice, pour que l'objectif poursuivi par différentes politiques publiques qui devraient nous amener à un modèle plus vert ne soit pas un objectif de cadre supérieur parisien qui fait du vélo, qui accorde du poids au recyclage, qui ne part pas souvent en vacances, etc. Comment est-ce qu'on fait pour que ça ne soit pas justement perçu comme quelque chose qui très étroits et qui reflètent les préférences, pour le dire dans des termes d'économistes peut-être un peu grossiers, d'une toute petite partie de la population.
Ce que révèle l'expérience dont j'ai parlé, c'est que on n'est pas dans une configuration d'imposition de préférence, puisque cette expérimentation visait à ce que les personnes expriment d'elles-mêmes ce qui comptait dans leur vie. Sauf que sur quoi on retombe, et ça ne devrait pas nous étonner, on a quand même plusieurs milliers d'années d'histoire culturelle là-dessus, c'est que les relations, l'équilibre de la vie, l'équilibre des temps de vie, la capacité d'être en relation avec son environnement proche, sont les facteurs qui sont jugés les plus importants par les personnes eux-mêmes. Quand bien même leur action quotidienne n'est pas forcément en cohérence avec ça, quand il n'y a pas eu cette petite marche pour les aider à s'en rendre compte. Ce sont des actions qui sont en train d'être déployées déjà dans un certain nombre de pays. Il y a quelques jours, un matinalier de France Culture se gossait des cours de bonheur qui sont déployés dans certaines écoles allemandes. Et pourtant, c'est exactement ça dont il s'agit. Apprendre, dès l'enfance, un certain nombre d'éléments. D'une part, de défense de son bien-être mental, parce qu'on n'a pas de formation aujourd'hui dans beaucoup de systèmes scolaires à la gestion de mes émotions, à qu'est-ce que je fais de mes émotions positives et négatives, alors que c'est un facteur majeur de santé mentale qui est parfaitement identifié en santé publique depuis des décennies. Et d'autre part, à faire cette différence, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie, quelle distance je prends vis-à-vis des modèles sociaux implicites qu'il y a tout autour de moi. Et ça, ce sont des facteurs qui sont puissants de bien-être. On ne parle pas de faire de la macro-ingénierie sociale en disant aux gens ce qu'ils vont devoir faire. Ce qu'on constate très empiriquement, c'est que les préférences des personnes, quand on leur donne l'occasion de les exprimer et de vivre en cohérence, sont en fait assez alignées avec la transition écologique. Après, on peut aller plus loin en diffusant un certain nombre de résultats de la recherche en sciences économiques qui prouvent, par exemple, enfin qui montrent ce qu'on a dans la satisfaction de vie, que le bien-être qu'on retire de l'acquisition de nouveaux objets quand ils viennent se substituer à des objets qu'on a déjà de fonctionnalités similaires, les 5 pouces de plus de ma taille de la taille de mon écran, ça ne va pas forcément me faire une augmentation de bien-être significative. En tout cas, moindre que si j'avais mis la même somme dans une expérience, dans un moment qui va me mettre en relation soit avec des amis, soit avec la nature, avec un patrimoine culturel. Et ça conduit à un boost, à un gain en bien-être qui est plus durable que l'acquisition d'objets matériels. Ce n'est pas pour ça que c'est forcément écologiquement meilleur, comme tu le disais avec les voyages longs. Mais quand on est conscient que ce qui compte, c'est l'expérience plutôt que construction sociale qui est au-dessus, de désirabilité qui est au-dessus, on va peut-être se poser des questions sur qu'est-ce qui produit des expériences qui me plaisent à moi, pas qui vont faire joli sur Instagram.
Si on regarde les pays émergents, et je pense évidemment particulièrement à la Chine, la consommation de viande est grandissante et l'appétit pour les automobiles, y compris avec des moteurs à explosion, à combustion interne, est de plus en plus élevé. Là encore, on n'a pas beaucoup parlé finalement, mais pour l'instant, on était resté implicitement sans doute à focaliser sur ce qui se passe dans les pays les plus développés. Est-ce que les leviers sont les mêmes du côté des pays émergents et notamment de l'Inde et de la Chine, à savoir les plus peuplés et les plus en croissance?
Là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a beaucoup de gens qui sont encore en dessous du niveau où tous leurs besoins sont couverts et surtout où leur niveau de sécurité va être couvert. À la Chine, on s'en rapproche. Le pays commence à prendre des actions de protection de l'environnement. On a consacré au CEPREMAP un ouvrage qui est en accès libre sur est-ce que c'est du trompe-l'œil ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose. La réponse étant un peu des deux. Il y a de la volonté, mais de la coupe aux lèvres, la distance est longue. La Chine, c'est le pays où ils ont le plus de véhicules électriques aujourd'hui, par simple effet de masse, mais aussi en proportion. Je crois qu'on est à 10% des nouveaux véhicules, 10-15% de nouveaux véhicules qui sont des véhicules électriques en Chine. De tête, hein, le chiffre est à vérifier, mais je crois que c'est cet ordre de grandeur-là. Donc, il se passe quelque chose. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour la Chine? Structurellement, pas grand-chose, en raison de la puissance et du poids de ce pays-là. C'est pour ça que si je voulais penser en tant qu'Européen, sur qu'est-ce qu'on peut faire sur la politique publique, c'est plutôt du côté de l'accompagnement de la transition en Afrique que je regarderai. Parce qu'on sait que c'est là où va se produire la grande augmentation de population. Et c'est là aussi où il y a encore toute une marge intensive où on peut accompagner la reformation, la reconstruction et la construction simplement des villes, des infrastructures, de manière à ce que ils fassent ce que les Anglais appellent le saut de grenouille, le leapfrog, et qu'ils atterrissent déjà sur des formes d'urbanisme, des formes de construction, des formes de vie qui sont moins consommatrices en ressources. Ils l'ont fait déjà sur la téléphonie. Ils sont passés quelque part directement de pas de téléphone au téléphone mobile, sans passer par l'étape téléphonie fixe. Et quelque part, c'est l'équivalent qu'il faudra arriver à les aider à faire, passer de un habitat qui est encore un habitat qui pose énormément de problèmes de salubrité dans plein de pays, à un habitat qui est à la fois sain et peu émetteur en effet de serre. Et c'est pour ça, à mon avis, la marge, elle est plutôt là. Parce qu'on sait que démographiquement, c'est l'Afrique qui va compter sur les 70 ans qui viennent. La Chine, ils sont déjà sur la pente descendante.
Comment est-ce qu'on fait en sorte que des personnes ordinaires se posent davantage la question de ce qui les rend heureux et, par eux-mêmes, en un sens et collectivement, décident de réorienter à la fois leur consommation, mais aussi ce qu'ils font de leur temps?
Au Royaume-Uni, en Allemagne, comme j'ai dit, c'est déjà des interventions qui sont faites en milieu scolaire. Et commencer par les enfants, ce qui semble assez logique. Un certain nombre de ces programmes, plutôt sur le versant santé mentale, commencent à être adaptés et déployés en France. À échelle plus large, c'est une vraie question pour laquelle je n'ai pas de réponse. Il y a ce côté très organique du programme britannique dont j'ai parlé, où les gens qui l'ont suivi peuvent ensuite se former et le diffuser autour d'eux. À plus grande échelle, ça devient objectivement compliqué. Parce qu'il y aura toujours cette suspicion de vouloir imposer quelque chose, quand bien même on ne ferait que révéler aux gens ce qu'ils savent déjà en fait d'eux-mêmes et ce qu'ils se disent au repas de famille.
Alors, j'en viens à des questions un peu plus politiques, parce que c'est des questions qui sont soulevées par les recherches dont tu témoignes et que tu résumes dans la note dont on parle depuis le début de notre entretien. Il y a un des grands titres, finalement, de cette note qui est l'idée de passer de l'éco-anxiété à l'éco-colère. Et donc, faire en sorte que les émotions négatives qui nous tirent vers le bas en raison du fait qu'on est inquiet du réchauffement climatique se transforment en capacité d'action. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire la révolution ?
Les termes du débat, en fait, sont qu'on a un constat que l'anxiété vis-à-vis du changement climatique, l'anxiété au sens de sentiment d'impuissance, pèse de plus en plus lourd sur la santé mentale et le bien-être, en particulier des jeunes générations. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Un chemin de sortie qui est connu et identifié par les psychologues depuis longtemps, c'est on sort de l'impuissance par la colère vis-à-vis de ceux qui, et de celles qui auraient les moyens de faire quelque chose et qui ne font pas. Et ça, c'est l'éco-colère, très bien incarnée quelque part par Greta Thunberg. Mais qu'est-ce que vous attendez pour faire quelque chose et qu'est-ce qu'on attend nous aussi pour faire quelque chose, même si on sait qu'on peut faire beaucoup moins que les générations qui sont actuellement aux commandes. Notre idée, c'est que, en tout cas ce que disent un certain nombre d'expériences, c'est que ce n'est pas la seule voie. On ne sort pas forcément que par la colère. Il y a un certain nombre d'attitudes, de comportements éco-responsables qui semblent générer un bien-être supérieur chez les personnes qui les adoptent. En tout cas, ce qu'on a aujourd'hui, c'est surtout des corrélations. On remarque que les personnes qui font plus attention à ce qu'elles achètent, qui font plus attention à leurs déplacements, qui sont plus sélectives dans leur choix de vacances et qui prennent la dimension écologique en compte dans tout ou partie de leur comportement, sont en moyenne, à niveau de revenus, diplôme et âge, etc., égal, plus satisfaites de leur vie, trouvent plus que leur vie a du sens que les personnes qui ne prêtent pas attention à cette dimension. On choisit plutôt de le lire comme voulant dire que le fait de prêter attention à l'environnement, ce n'est pas quelque chose qui va forcément me rendre malheureux. C'est quelque chose qui peut me rendre au moins autant satisfait, voire plus satisfait que si je n'y faisais pas attention.
Donc ça veut dire qu'il faut retrouver de la capacité d'action à la fois à l'échelle individuelle et puis à une échelle plus collective.
Je pense, oui. Il y a des grandes marges d'action que je connais moins bien parce qu'elles ne sont pas évaluées en termes de bien-être, mais c'est un champ de recherche qui est très actif à la rencontre des sciences cognitives et de l'urbanisme sur la manière de réorganiser notre urbanisme dans les villes, mais aussi dans les campagnes, de manière à faire des environnements qui sont beaucoup plus favorables à la santé mentale et au bien-être. Et c'est un champ de recherche, c'est presque de recherche-action, parce que c'est des programmes de rénovation urbaine qui sont accompagnés par ça, qui est très actif, extrêmement intéressant, et qui remettent vraiment, qui rebattent énormément de cartes sur le format urbain, sur les questions de cohabitation des générations, sur les questions d'équilibre entre l'artificialisation et la nature, quelle nature on met dans des espaces urbains artificialisés, et qui brasse énormément de choses.
Ok, donc il y a des champs de recherche dans tout ce dont on est en train de discuter qui sont vraiment en train d'être défrichés à l'heure actuelle. Moi, ça me fait néanmoins penser à un bouquin un peu vieux maintenant, qui a presque un demi-siècle, qui est celui d'un économiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Albert Hirschman. Et Hirschman explique dans Honneur privé et action publique qu'il y a un côté, par définition, par construction, pourrait-on dire, décevant à la consommation. Et que la consommation, notamment de biens matériels durables, des biens d'équipement, un frigidaire, un four, une automobile y compris, c'est quelque chose qui peut, au moment où on l'achète, nous rapporter énormément de satisfaction, et puis qui a, par définition, des rendements décroissants, pourrait-on dire, de telle sorte que, au fur et à mesure du fait que des populations deviennent plus riches et donc ont des possibilités de consommation et d'environnement matériel plus satisfaisant, bah, elles en sont de moins en moins satisfaites, et elles se tournent, au bout d'un moment, dit-il, de plus en plus vers ce qu'il appelle des méta-préférences, à savoir justement bah, sortir de l'accumulation d'objets et se tourner vers l'action publique. Est-ce qu'on peut parier sur... Alors, bah, c'est évidemment résumer un peu à la hache ce que je raconte à l'instant, mais est-ce qu'on peut parier sur le fait qu'à l'heure actuelle, et y compris peut-être un côté générationnel, l'accumulation d'objets matériels, le fait d'avoir des télés de plus en plus grandes, comme tu en parlais tout à l'heure, finit par soi-même, par être décevant, n'apporter finalement que très peu de satisfaction à l'égard de la vie, et orienter des individus privés et même des collectifs vers davantage d'actions publiques.
Je pense qu'il y a une dimension distributionnelle et générationnelle qui est extrêmement importante. Distributionnel au sens où c'est quelque chose que vont ressentir des gens qui sont près de l'aplatissement de la courbe dont je parlais. Donc des gens qui sont déjà dans la moitié, assez loin de la moitié, vers le tiers supérieur des revenus en France. Ce qui veut dire qu'il faut bien s'occuper aussi des deux tiers restants de la population. Ça va aussi être beaucoup plus audible par des personnes qui sont accoutumées à ce niveau de revenus. Et donc des personnes qui n'accèdent pas, qui ne sont pas la première génération à accéder à ce type de confort. C'est beaucoup plus facile à dire à des gens dont les parents avaient déjà un niveau de confort assez fort que à des gens qui sont les premiers à avoir une maison, les premiers à avoir une voiture récente, et pour qui ça représente un modèle sur lequel ils se sont complètement construits. Et ça serait quelque part à la fois cruel, difficile et cruel et pas respectueux de ces personnes, de leur dire « vous vous êtes construit sur un modèle qui est complètement débile ». Ce qui est un peu le discours qu'on a tenu à l'égard des Gilets jaunes. Objectivement, la maison isolée, très loin de tout, qui oblige à avoir deux voitures qui doivent être chauffées pour elles-mêmes, où il n'y a aucune économie de chauffage avec les voisins, au niveau de la transition écologique, ça va être un problème. L'enjeu, ça va être comment faire pour traiter ce problème sans juger les personnes qui ont, à une époque où ça leur semblait faire sens, adopté ces comportements-là. Et c'est pour ça que ce discours-là, ça peut être un point de mire, mais il n'est clairement pas adapté ni désirable pour tout le monde et ce n'est pas respectueux de tout le monde, la construction des préférences. C'est pour ça que je parlerais plutôt d'agir au niveau de la construction progressive des préférences. Évidemment, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps pour tout ça, ce qui veut dire de consentir un effort beaucoup plus élevé pour toutes celles et ceux qui ont beaucoup plus de marge de manœuvre.
J'ai une dernière question là-dessus, qui peut-être là aussi peut être un petit peu optimiste. On parle à l'heure actuelle, évidemment, compte tenu de l'inflation qui accélère, beaucoup plus de pouvoir d'achat. Est-ce qu'une manière d'accepter et de faire accepter, y compris à des couches de la population qui n'y seraient justement pas du tout sensibles au départ, des mesures de sobriété, ça peut être tout simplement de montrer à quel point celles-ci font gagner de l'argent?
Les ménages, en fait, sont très inégalement capables d'avoir des attitudes plus sobres. Quand j'habite à Paris intramuros, c'est un quart d'heure de mon boulot, ça ne me coûte quasiment rien, ça me bénéficie de prendre mon vélo plutôt que de ma voiture. Quand je suis à 80 km de mon travail et ma conjointe à 80 km du sien dans l'autre sens, dans un endroit où il n'y a pas de transport en commun, j'ai en fait très peu de marge de manœuvre pour la sobriété. Donc oui, mais ça ne marchera pas pour tout le monde. c'est effectivement un levier de montrer qu'un certain nombre de comportements moins consommateurs produisent plus de satisfaction dans la vie. Mais là encore, c'est quelque chose qui est pas, qu'on ne peut pas faire le même modèle pour tout le monde. Et il y a un enjeu de trouver des modèles de consommation qui soient aussi adaptés à la réalité du tissu social et urbain tel qu'il existe aujourd'hui en France.
Bon, donc on a du pain sur la planche pour changer énormément de choses à la fois, l'urbanisme, la fiscalité et les modèles de consommation en général. Moi, ce que je retiens quand même en conclusion, mais tu me diras si on peut aller jusque-là, ça nous donne de l'optimisme, les recherches qui montrent à quel point la transition écologique, y compris dans ce qu'elle pouvait avoir au départ d'un peu déprimant et d'un peu accablant même, nous oriente vers... des, justement à la fois des modèles de consommation, mais pas seulement, parce que c'est pas seulement de consommation, loin de là, qu'on a parlé aujourd'hui, peuvent nous mener vers quelque chose qui rend plus heureux. Voilà, on peut dire ça comme ça ?
Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Un élément qui est à la fois optimiste, mais aussi pessimiste, c'est que quand on dit ça, qu'est-ce qu'on dit ? On répète avec une base scientifique et beaucoup de psychométrie, énormément d'enquêtes, des éléments qui sont depuis longtemps dans un certain nombre de religions, de normes sociales qui privilégient l'attention aux autres, l'attention à notre environnement, les relations sociales, les relations humaines sur la consommation. Donc quelque part, on n'a pas l'impression qu'on se fait les défenseurs d'un changement radical de société. C'est ce qu'on nous dit, qu'on ressent, ce que les sociétés portent comme modèle d'elles-mêmes depuis plusieurs milliers d'années. Mais du coup, l'enjeu, c'est est-ce que ce coup-ci, on va arriver à aller un peu plus dans cette direction-là que tout ce qui s'est passé depuis 3000 ans d'histoire de l'humanité. Dans le siècle dernier, on a sorti une immense majorité de l'humanité d'une situation de pauvreté absolue. Donc la situation matérielle de l'humanité n'est plus du tout la même qu'il y a un siècle et un siècle et demi. Et donc, il y a peut-être aujourd'hui, grâce à un siècle et demi de croissance économique, de développement technologique, la possibilité de prendre ce virage sans laisser complètement de côté la majorité, juste la majeure partie de l'humanité.
Merci encore à Mathieu Perrona de nous avoir rejoints ce matin.
Merci pour votre invitation.
Et donc, on dit aussi rendez-vous aux auditeurices à la rentrée, date à préciser pour la prochaine saison de Splash.